journal, c'est avec vous, Cécile Bidot.
Bonjour. Le G20 se termine sur un accord. Les 20 pays les plus riches de la planète signent un objectif commun sur le réchauffement climatique. Limiter la hausse des températures à 1,5 degré. Rien de bien nouveau sous le soleil de plomb de nos étés caniculaires. C'était déjà la feuille de route imposée par l'accord de Paris. Dans ce journal, nous sommes en direct de Rome pour évoquer la conclusion de ce sommet et la rencontre bilatérale ce matin entre Emmanuel Macron et Boris Johnson. Le centre du monde se déplace de Rome à Glasgow puisque la COP26 enchaîne en Écosse sur ce même thème du réchauffement climatique. Le président du pays pollueur numéro 1, la Chine, ne fait pas le voyage. Dans ce journal, 3 alpinistes français portés disparus dans l'Himalaya. Un probable nouvel accident de chasse en Bretagne cette fois. Et le cinéma qui fait la part belle à Balzac et donne une nouvelle jeunesse à l'écrivain du 19e siècle. La météo à suivre, Jean-Michel Gaulin, ce qui nous annoncera une accalmie relative, mais toujours de la pluie au sud.
France Inter.
La France et la Grande-Bretagne semblent vouloir faire souffler un vent d'apaisement. En marge du sommet du G20 à Rome, Emmanuel Macron et Boris Johnson se sont expliqués ce matin en tête à tête pendant une demi-heure sur le dossier de la pêche. Depuis le Brexit, le Royaume-Uni délivre au compte-gouttes les licences qui permettent aux pêcheurs français de travailler dans les eaux britanniques. Et la France a montré les muscles. Si rien ne change d'ici à mardi, les navires de pêche anglais ne pourront plus débarquer leur cargaison dans les ports français. La rencontre entre le président français et le premier ministre britannique a eu lieu dans le centre des congrès du G20. Yannick Falt, vous êtes à Rome, bonjour.
Bonjour.
Et les deux meilleurs ennemis affichent une volonté de désescalade.
Oui, et le temps est compté. Pourquoi ? Parce que les deux pays doivent trouver un accord d'ici mardi. C'est en tout cas l'échéance fixée par Paris pour mettre ces menaces à exécution, interdire aux navires de pêche britanniques de décharger leur cargaison en France et renforcer les contrôles douaniers de camions. Pas de décision concrète à ce stade, alors que les décisions sur les licences de pêche concernent quelques dizaines de bateaux français, selon l'Elysée. Licences pour leur permettre de travailler dans les eaux britanniques, mais une volonté de désescalade, volonté commune donc. Le fait qu'ils se soit rencontré est un premier pas pour l'entourage d'Emmanuel Macron qui martèle que ce n'est pas une affaire franco-britannique mais entre Londres et l'Union européenne. Le chef de l'État a fait passer à Boris Johnson, je cite, un message d'exigence, de sérieux, de respect, respect des règles du jeu et de la signature britannique sur l'accord du Brexit. Une rencontre d'une demi-heure, vous l'avez dit, en tête à tête, sans aucun conseiller. Pas de son, pas d'image, pas même une photo officielle, ce qui est extrêmement rare pour ce type de rendez-vous.
Yannick Falt, envoyé spécial de France Inter à Rome avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. Le sommet du G20 s'achève ce soir et les participants ont trouvé un accord sur l'objectif à afficher ensemble, limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré de plus que les températures de l'ère pré-industrielle. C'est l'objectif qu'avait déjà affiché l'accord de Paris il y a 6 ans. Les pays s'engagent également à ne plus financer de nouvelles centrales au charbon à l'extérieur de leurs frontières d'ici à la fin de l'année. Après Rome, tous les chemins mènent à Glasgow. La COP26 est ouverte en Écosse. Les chefs d'État et leurs émissaires se retrouvent pour cette nouvelle conférence internationale sur le climat. Pendant 2 semaines, jusqu'au 12 novembre, les négociations seront tendues vers un objectif brûlant, accélérer la lutte contre le réchauffement climatique en revoyant à la hausse les objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Mais pour de nombreux observateurs, les promesses ne sont pas à la hauteur de la catastrophe climatique qui s'annonce. Des manifestations seront là pour le rappeler. La sécurité de ce sommet est donc un autre enjeu crucial. Richard Place est le correspondant de France Inter au Royaume-Uni.
10 000 policiers patrouilleront quotidiennement. Impossible de les rater dans les rues de Glasgow. Ils seront aussi sur la Clyde, la rivière qui traverse la ville. Des plongeurs et des caméras sous-marines seront également utilisés car le cours d'eau passe le long de l'endroit où se tient le sommet. Des attaques terroristes aux manifestants violents, les autorités ont imaginé de nombreuses possibilités. La plus évidente, c'est l'intervention des militants du mouvement Extinction Rébellion. Ce groupe écologiste radical multiplie les actions coup de poing. Ces dernières semaines en Angleterre, certains ont coupé la circulation sur des routes et des autoroutes en s'asseyant sur la chaussée. Sue est l'une d'entre eux.
Tout ce qu'on peut faire pour attirer l'attention et pousser les gouvernements à agir, même si c'est fou, on doit le faire, quel qu'en soit le coût et les conséquences pour nous.
La police écossaise précise qu'elle aura une approche accueillante, amicale et proportionnée face à des manifestations, mais elle fera preuve d'une faible tolérance si des militants perturbent la circulation sur les routes et les autoroutes. Londres, Richard Place, France Inter.
Ouverture officielle donc de la COP26. Aujourd'hui, la cérémonie officielle s'est déroulée en fin de matinée. Les chefs d'État arrivent ce soir et entreront demain dans le vif du sujet. L'Espagne va-t-elle manquer de gaz? Le contrat d'exploitation qui la lie à l'Algérie prend fin aujourd'hui. Il était en service depuis un quart de siècle. Long de plus de 1400 km, ce gazoduc acheminait 10 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an depuis l'Algérie vers l'Espagne, en passant par le Maroc. Et c'est justement pour éviter que le gaz transite par le Maroc que l'Algérie a décidé de fermer ce pipeline, avec toutes les conséquences que cela entraîne pour l'Espagne, victime collatérale de la crise diplomatique entre les deux pays. Marie-Hélène Ballestero.
En fermant le gazoduc Maghreb-Europe, le GME, l'Algérie voulait porter préjudice au Maroc, mais c'est aussi l'Espagne qui en sort lésée. Car ce gazoduc est la principale source d'approvisionnement en gaz naturel dans ce pays. Il faut savoir que l'Algérie est le premier fournisseur de gaz naturel de l'Espagne. L'année dernière, elle lui a fourni près de 50% du gaz qui est consommé dans ce pays et près de 22% est passé par le gazoduc GME. D'où l'inquiétude du gouvernement espagnol et c'est pourquoi la ministre de la Transition écologique, Teresa Rivera, s'est entretenue mercredi dernier à Alger avec le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab. Il s'est engagé à fournir tous les approvisionnements prévus. Les livraisons se feront donc désormais via un autre gazoduc sous-marin inauguré en 2004, le Medgaz, qui relie directement les deux pays et à travers la hausse des exportations de gaz naturel liquéfié par voie maritime. La question désormais est de savoir si cela sera suffisant pour compenser les 10 milliards de mètres cubes de gaz naturel qui étaient acheminés chaque année via le GME. Madrid, Marie-Hélène Ballestero, France Inter.
On avait fini par se demander s'il était encore vivant ou s'il avait quitté l'Afghanistan. Le mystérieux guide des talibans est apparu en public. C'est le gouvernement taliban qui l'annonce aujourd'hui. C'est sa première apparition depuis sa nomination à la tête du mouvement extrémiste religieux. Christian Chéneau.
Le cheikh Hibatullah Harunzada a fait une apparition dans une madrasa, une école coranique de Kandahar, dont il est originaire. Selon le gouvernement taliban, il aurait parlé pendant une dizaine de minutes à ses partisans qu'il a qualifiés de vaillants soldats et disciples. Le chef religieux était entouré d'un dispositif de sécurité très strict et aucune photographie n'était autorisée. Selon un enregistrement audio, Hibatullah Harunzada a prié à la mémoire des talibans morts au combat et pour le succès de l'émirat islamique au pouvoir à Kaboul depuis le mois d'août dernier. Depuis sa prise de fonction en 2016, le leader suprême du groupe radical vit en clandestinité et ne parle que très rarement, notamment à l'occasion des fêtes religieuses musulmanes. Aujourd'hui, il est au sommet de la hiérarchie des talibans. Dans son dernier message qui remonte au 7 septembre, il avait exigé l'application de la charia, la loi islamique, dans les affaires de l'État, preuve qu'il est le véritable inspirateur et détenteur du nouveau pouvoir en Afghanistan.
La coalition au pouvoir au Japon conserve sa majorité au Parlement, selon les premières estimations après les élections législatives. Les bureaux de vote ont fermé il y a une heure et selon la chaîne de télévision publique NHK, le camp du Premier ministre Fumio Kishida remporte entre 239 et 288 sièges. Il est en recul mais resterait majoritaire. On apprend à l'instant qu'une attaque au couteau a fait plusieurs blessés dans un train à Tokyo ce matin. Un suspect a été interpellé.
France Inter, le journal de 13h. Cécile Bideau.
Trois alpinistes français sont portés disparus après une avalanche dans l'Himalaya. Un groupe d'alpinistes aguerris se trouve au Népal depuis plusieurs semaines pour l'ascension de plusieurs sommets. L'accident a eu lieu près du mont Everest. Précision de Marius Delaunay de France Bleu Pays de Savoie.
Les alpinistes ont tous pris l'avion le 30 septembre, il y a un mois. Leur objectif, passer 5 semaines au Népal pour gravir des sommets à plus de 5000 mètres d'altitude. Les participants ont tous moins de 30 ans. Ils sont tous membres du groupe Excellence Alpinisme National, une référence dans l'univers de la montagne. Ils sont donc parfaitement entraînés depuis des années, justement pour préparer cette expédition. Les trois disparus faisaient partie de la même cordée. Ils se sont lancés dimanche dans l'ascension d'une paroi rocheuse recouverte de glace à plus de 6000 mètres d'altitude, au sud de l'Everest. L'ascension devait durer 4 jours, mais depuis mercredi, plus de nouvelles. La Fédération française des clubs alpins a affrété un hélicoptère hier pour tenter de les retrouver. Les recherches continuent aujourd'hui et une équipe de secours est toujours sur place. Marius Delaunay, France Bleu Pays de Savoie pour France Inter.
Si les circonstances se confirment, ce sera le deuxième accident de chasse en 3 jours en France. Hier, en Ille-et-Vilaine, un automobiliste de 67 ans a été grièvement blessé par balle alors qu'il roulait entre Rennes et Nantes. Son pronostic vital est aujourd'hui engagé. Un chasseur est en garde à vue, soupçonné d'être l'auteur du coup de feu. Jeudi, en Haute-Savoie, c'est un promeneur qui a été blessé par un tir de fusil de chasse. À l'heure où le candidat écologiste à la présidentielle, Yannick Jadot, propose d'interdire la chasse le week-end, ces accidents alimentent l'argumentaire des opposants. L'Association pour la protection des animaux sauvages appelle aujourd'hui les victimes de balles perdues à porter plainte systématiquement. Pour Marc Giraud, le porte-parole de l'ASPAS, la sécurité n'est pas garantie en période de chasse.
Le problème, c'est que les chasseurs gèrent eux-mêmes leur propre sécurité. Et en fait, ce qu'ils nous racontent, c'est des esbrouffes. Les armes utilisées pour les battues au gros gibier, ça peut tuer à plus d'un kilomètre quand même. Donc c'est très dangereux, une balle perdue. Et les chasseurs, ils se mettent des gilets fluo, ils sont gentils, mais les promeneurs, qu'est-ce qu'ils font? On voit bien qu'on n'est pas en sécurité, nulle part, même sur la route. On a écrit un livre qui s'appelle « Comment se promener dans les bois sans se faire tirer dessus ?» Justement, pour montrer aux Français, c'est pas du tout un livre d'opinion, hein. C'est un livre qui raconte les faits. Et on voit très bien que les chasseurs ont à peu près tous les droits. D'ailleurs, ils disent, on est chez nous, partout dans la nature. Les chasseurs, c'est quand même moins de 2% de la population. Ils sont moins d'un million dans les vrais chiffres aujourd'hui. Et les autres, comment on partage l'espace? La première des choses à faire, ça serait d'imposer une trêve de la chasse au moins le dimanche. Ça a été fait en 1882 en Angleterre quand même. Dans tous les pays d'Europe, il y a au moins un jour national sans chasse. Et en France, il n'y a aucun jour national sans chasse. Et ça, c'est pas normal.
Le porte-parole de l'Association pour la protection des animaux sauvages, joint par Cécilia Arbona. 2 rêves parties sont en cours. L'une rassemble 3000 personnes dans le Loiret à Ouzouer-sur-Trézée. L'autre, 1 millier de fêtards dans un ancien abattoir du Finistère. Dans les deux cas, les rassemblements n'ont pas été autorisés, mais se déroulent dans le calme, sans intervention des forces de l'ordre pour le moment. Malgré les presque 200 ans qui nous séparent, Honoré de Balzac est au cœur de l'actualité en ce moment. L'écrivain tient même le haut de l'affiche puisque 2 de ses œuvres adaptées pour le cinéma connaissent un beau succès. Eugénie Grandet de Marc Duguin et surtout Illusion perdue de Xavier Giannoli, vu par 230 000 personnes en 10 jours. Ces films ont aussi un effet vertueux sur la littérature. Bonjour Yann Gallic.
Bonjour.
Il relance l'intérêt du public et notamment des jeunes pour les grands classiques.
Ces adaptations cinématographiques font le bonheur de certains enseignants qui les utilisent parfois comme des outils pédagogiques.
Quand te déciderais-tu pour Eugénie ?
À travers un film, les élèves peuvent appréhender plus facilement les grands romans du 19e siècle, explique Magali Le Sénéchal Vidal. Elle est professeure de lettres classiques dans un lycée d'Angers.
Le détour par l'image peut être un moyen d'entrer dans l'œuvre. Je ne vous aurais pas dit ça il y a 20 ans quand j'ai commencé à enseigner, parce que pour moi c'était une hérésie de voir le film avant que d'avoir le texte, et je me rends compte que c'est une porte qui s'ouvre pour être dans l'œuvre.
Et Honoré de Balzac sera de nouveau au programme de français l'an prochain pour les élèves de première.
Mais qu'est-ce que vous allez faire ?
Yann, ces adaptations au cinéma dopent également les ventes en librairie.
Nous sommes allés dans une grande librairie indépendante du 2e arrondissement de Paris. Au rayon des livres de poche, les 2 romans de Balzac, aujourd'hui adaptés au cinéma, figurent en bonne place sur les présentoirs.
Les éditions Folio ont ressorti une édition des Illusions perdues et une édition d'Eugénie Grandet avec les affiches du film en couverture.
Delphine Bouettard est la responsable de cette librairie.
Effectivement, ça a un impact sur les ventes. Le phénomène le plus marquant de ces dernières semaines, c'est ce qui se passe autour de Dune, qui est un classique de la littérature de science-fiction, et c'est lié au film.
Pas sûr que Balzac arrive à dépasser Frank Herbert et son célèbre roman de science-fiction. Dans cette librairie parisienne, depuis la sortie du film, les ventes de Dune ont été multipliés par 8.
Dune, Balzac, même combat. Merci Yann Gallic. Nous poursuivons la réflexion sur Inter avec Histoire 2, juste après ce journal. Vivons-nous un instant balzacien ? C'est la question que pose Patrick Boucheron, qui reçoit notamment le réalisateur des Illusions perdues, Xavier Giannoli. Vous avez peut-être la chance d'être en vacances ou au moins en week-end prolongé. Dans les zones touristiques, cette période de la Toussaint est un nouveau test. Après l'été, les visiteurs sont-ils au rendez-vous malgré la crise sanitaire qui se poursuit et le pass qui va avec? À Hossegor, dans les Landes, il semble que oui, il y a du monde sur les grandes plages de sable fin. Reportage de Sarah Ders.
C'est la première fois que Louise voyage dans le sud-ouest.
On est 3 familles de Paris à être venues, chacun avec nos enfants du même âge. On a loué une grande maison et puis à
tour de rôle, les uns vont faire du surf, les autres font des activités avec les enfants.
Avec ses enfants, Marielle vient chaque année à la Toussaint.
On a loué une maison dans la région et on est venu se promener au bord de la plage, manger un morceau au restaurant.
Le seul hic.
Moi, je trouve qu'il y a plus de monde. Après, il y a aussi des bonnes conditions climatiques d'annoncer. Il fait beau, il y a des super vagues, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de touristes.
Cette commerçante du centre-ville est ravie de la saison, mais épuisée par l'afflux de touristes. Une saison qui se prolonge pour Sylvie toute l'année.
C'est vrai que les Français viennent beaucoup plus facilement maintenant sur la côte. Avant, je pense que Toussaint, ils partaient en voyage. Franchement, on remarque quand même qu'il y a plus en plus de monde régulièrement, on va dire.
Et ça ne ravit pas tous les habitants d'Haussegor. Yves a même dû réserver à l'avance des places au restaurant.
C'est un sentiment mitigé parce qu'on avait l'impression d'avoir un paradis pour nous tout seuls. Et d'un autre côté, on comprend bien que c'est aussi nécessaire pour l'économie de la région. Et donc globalement, ce petit paradis, il faut savoir aussi le partager.
Un paradis blanc qui attend encore du monde pour le championnat de moto, la Ronde des Sables, fin novembre et les fêtes de fin d'année.
Sarah Ders, France Bleu Gascogne. La 12e journée de Ligue 1 de football se termine aujourd'hui avec Angers-Nice qui commence à l'instant. Plusieurs affiches cet après-midi, dont Strasbourg, Lorient, Montpellier, Nantes et Brest, Monaco. En clôture ce soir, Clermont accueille Marseille. En ce jour d'Halloween, tous les sorciers de Franche-Comté ont rendez-vous à Andelnans. C'est là que se tient le salon Grimoire et Chaudron. Où se retrouvent les amateurs de magie, avec des cours de Quidditch, des combats de baguettes ou des leçons de potions. Près de 5000 personnes, fans d'Harry Potter notamment, sont attendues. Et attention, c'est du sérieux. Voici la Guitoune, les enfants et les adultes que vous avez croisés ont révélé toute leur puissance.
Devant la salle de classe de magie, Lola, jeune apprentie de 8 ans, est en train de choisir son cours de sorcellerie.
J'en suis déjà une sorcière. Et si j'apprends le sortilège de destruction, je le fais sur l'école et la maîtresse. Parce qu'elle est pas cool. J'ai pas le droit de bavarder en classe.
Sur le terrain de Quidditch cette fois.
Balai entre les jambes, 3, 2, 1...
Nelio, grand fan d'Harry Potter, est à Califourchon sur son balai.
Attention, tombez de ton balai, retourne à tes anneaux.
Il s'entraîne pour devenir le plus grand magicien au monde.
Si t'as 5 croix sur la main, c'est que t'es un magicien puissant et je n'ai 5 croix sur la main. Mais ça se voit pas vu qu'ils sont de la même couleur que la peau.
Alors apparemment, mon fils est un puissant magicien.
Il fait ranger sa chambre en un sort. Papa, range ma chambre.
C'est maman qui a dit que j'étais un puissant magicien, c'est maman.
Et oui, même les parents se prêtent au jeu. Sandra s'arrête devant des cartes d'oracle. Cette mère de famille porte des lentilles blanches et des immenses ailes noires sont déployées sur son dos.
Avec ma petite de 4 ans, si elle a le nez qui coule, je vais lui mettre un peu d'huile essentielle sur son doudou, mais je vais lui dire que c'est de la poudre magique. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est dans un monde un peu trop sombre, un peu trop noir. Et j'essaie de tout rapporter un petit peu à la magie pour créer un petit peu de féerie.
Une magie qui se prolonge aujourd'hui jusqu'à 19h.
Reportage magique France Bleu Belfort.